Leslie John au couloir en numéro 2. Allez Leslie, c'est parti pour Leslie John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Super Marquet, je ne dis rien.
La c'est le moment, entière. C'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside, pretty play from Tony Parker.
Du tape d'apéro.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Alors je ne regarde pas.
Allez mon petit bonhomme.
Du tape d'apéro.
Allez Louis.
Allez mon petit bonhomme.
Et bonjour à tous, bienvenue pour ce 65e Instant Sport. Alors la semaine dernière, on a essayé de faire remonter Laurent dans le classement des pronostiqueurs en jouant sur le grand classico Metz-Nancy, et ça n'a pas marché, il s'est foiré. Salut Laurent.
Salut, bonjour tout le monde.
Alors attends, est-ce que t'as le bon micro? Vas-y, parle-moi.
Allez, salut, bonjour tout le monde.
C'était pas le bon micro. Ouais. Oui, Jouffre, Erding, bon joueur, n'importe quoi encore.
N'importe quoi.
Hein, pourtant, Patrick t'avait prévenu qu'il y avait Pedretti qui allait faire la différence, il te l'a dit.
Ouais,
hein.
Mais à Metz, il y a quand même. Hier, Metz a gagné 1-0 contre Lyon. Donc, je veux dire, c'est quand même une bonne équipe.
Et deux pétards à zéro.
Ils vont le perdre sur. Ils vont le perdre sur tapis vert, hein, ce match. Hein.
Ah, c'est sûr,
je préfère te le dire.
Ils vont perdre beaucoup plus que comme match d'ailleurs.
Salut Patrick, Pedretti comme à la bonne époque de l'Olympique de Marseille.
C'est la première fois que je vois Pedretti mettre un attentat, je ne sais pas ce qui lui est arrivé hier, il a un peu pété les plombs, moi j'allais dire il tacle jamais, mais il a même pas eu besoin de tacler, en plus sur notre futur prodige, notre chouchou intouchable, voilà notre prodige intouchable, bon 3-0, ouais, tu as vu, on a grand sourire aujourd'hui avec Laurent, hein.
Ah ben,
bonjour à toutes et à tous.
Aussi,
et moi aussi. Hein.
Et toi aussi, 3-0 aussi.
3-0 aussi, facile.
Claté Nancy. Quoi.
Et salut Aurélien, toi aussi n'importe quoi, c'est pronostic. 1-0 pour Metz, tu avais parié.
Bonjour à tous. J'avais pronostiqué 1-0 pour Metz. Mais quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. C'est vrai que cette année, c'est la cata.
Attends 2017, comme ça, aussi 2017, tu vas faire 4-5 bons résultats d'affilée, tu vas nous mettre une rousse.
Ah, c'est ça. C'est ce que je prévois en fait. Hein. Tout est calculé.
D'accord.
Ah. Aujourd'hui, on vous prévient, c'est Aurélien qui parle, c'est pas Jeanne Moreau. Hein.
Oui, c'est ça, j'ai un peu la voix nasillarde, effectivement.
On est tous enrhumés, et ouais. Patrick, j'allais te le dire, deux bons 3-0 ce week-end, on y reviendra dessus en seconde partie. Bon, un plus facile que l'autre, hein, parce que bon, Nancy, c'est pas...
Non, c'est vrai qu'on peut pas comparer PSG à Nancy, c'est clair, donc tu as le droit d'avoir un plus large sourire que nous.
Allez, et on salue Christophe qui, après quelques mois dans l'Instant Sport, nous quitte. On le remercie d'avoir participé à cette émission, d'y avoir mis son cœur et son esprit de camaraderie sportive qui nous est cher ici. Et on salue également le groupe La Dépêche qui est en train de faire n'importe quoi avec ses journalistes. Allez, direction le MGC, Mende qui recevait Valence ce week-end, réserve de pro D2, renforcée d'ailleurs par 3 joueurs qui évoluaient avec l'équipe première, et nos petits gars du MGC qui ont bien résisté, mais qui s'inclinent finalement 33-28 devant un public toujours aussi nombreux. Alors 11 partout à la 20e, 15-18 à la pause, 20-22e à la 42e, donc c'est quand même resté serré, même s'ils ont couru après le score tout le match. Alors Patrick, toi tu étais au match ce samedi, avant de parler...
Contre Armand d'autres qui avaient annoncé qu'il y serait.
Et d'ailleurs, Laurent y était aussi, donc l'Instant Sport était magnifiquement représenté pour ce dernier match de l'année 2016 à domicile.
Et ouais, mais je suis parti en Nord-Lozère.
Tu as du mal à rentrer après.
J'ai du mal à rentrer.
Il y a de la neige.
Mais je parlerai du handball Nord-Lozère comme ça. Donc oui, avant de parler de ce match, toi, tu étais pour la première fois de cette saison allé voir le MGC. Donc j'aimerais avoir un peu ton ressenti sur l'ambiance, sur l'équipe, sur l'état d'esprit autour du MGC.
Au niveau de l'ambiance, le gymnase était une fois encore bondé. C'est-à-dire que toutes les places assises sont prises et il y a même les allées donc qui permettent d'accéder aux différentes rangées qui sont archi combles, donc les gens sont obligés de se lever quand tu veux aller boire un coup ou voilà, donc c'est une ambiance c'est vrai alors Le gymnase était mondé au niveau de l'ambiance. On a connu plus chaud, c'est normal aussi, puisque ça dépend beaucoup du déroulement du match. Et bon, je pense que le public a été comme nous, il a vite compris que cette équipe de Valence était quand même un ton au-dessus. Mais bon, il y a eu des encouragements, ça crie, puis bon, quelques décisions, quelques contacts, le public réagit. Donc il y a toujours une belle ambiance à la Vernade, et surtout un public énorme et très très nombreux.
Et fidèle.
Et donc à la fin du match, vu que c'était le dernier match de l'année à Vernade, un petit pot, c'était sympa.
C'était vraiment très sympa, puisque c'est vrai que le club avait décidé de, ben, comme il le fait traditionnellement, d'inviter tout le monde à la fin du match, puisque c'était la dernière à domicile de l'année 2016. Donc le président Rodier m'a dit de rester pour boire un coup, et donc on a eu la chance avec Laurent d'avoir une discussion. Qui a duré un certain temps, de boire quelques demi, et donc on a appris quelques trucs. Alors on pourra pas tout révéler, c'est certes, mais en tout cas c'était très intéressant et c'était très sympa. Et j'en profite de remercier Philippe Rodier et l'ensemble des dirigeants. En tant que journaliste, on est toujours super bien reçu à la Vernade par tout le monde, et c'est vraiment un plaisir d'aller voir cette équipe, et ça me fait penser un peu à ce qu'on vit au Piencourt aussi, puisque c'est un sport de ça avec le volley. Il y a toujours cet après-match où on peut justement discuter aussi bien avec les joueurs qu'avec les dirigeants, et ça permet justement d'avoir une autre vision de la chose et du club. Pascal Daudet aussi est venu nous demander de pas être trop sévère avec l'équipe aujourd'hui à l'Instant Sport, donc on le salue et on salue toute l'équipe du MGC.
Mais c'est pas parce qu'il nous le demande qu'on
ne va pas le faire.
Pascal,
pas le faire.
Je suis désolé. Mais...
Voilà, donc après notre spécialiste apéro, Patrick Biancone, notre spécialiste handball, alors dis-nous sur ce match, Laurent.
Écoute, Patrick a bien résumé. En face, c'était très jeune, mais très bon, avec quelques joueurs expérimentés qui jouent au-dessus. On le voit tout de suite sur les contres, sur les tirs, surtout. Un très bon gardien. Et malgré ça, l'équipe de Mende a quand même fait mieux que subir, je vais dire, l'attaque très bien la partie, avec Robin Bartholome qui marque quand même les quatre premiers buts. Et puis après, bon, petit à petit, on a souvent été à 2-3 buts d'écart derrière, et il a manqué toujours ce petit but, ce contre. Il y a eu 7 ou 8 poteaux qui rentrent pas. Et chaque fois, ces buts auraient permis d'y croire. Et puis voilà, ils sont jamais venus. Donc c'est un peu dommage, un peu ralent, mais il faut quand même reconnaître que la meilleure équipe a gagné. Bon, il y aura d'autres matchs. En mettant la même intensité et la même générosité, le MGC gagnera des matchs, et qui sait, pourra se sauver, parce que bon, pour l'instant, évidemment, ça n'est pas le cas, mais ça viendra.
Après, que sur 5 joueurs de champ, 3 joueurs qui évoluent en division 2, c'est impossible.
Non, tout à fait. Non, mais comme
c'est
le dit,
pas impossible.
Comme le dit Laurent, c'est vrai qu'on n'a pas eu besoin de nous dire qui étaient ces 3 joueurs. Ouais. Au moins deux sur les 3, qui étaient largement au-dessus du lot. Il y avait un demi-centre, mais qui avait le numéro 97. Bon, vraiment, un artiste qui prenait les intervalles et puis qui conduisait le jeu de son équipe avec brio. Et puis il y avait cet ailier 99, un tout petit,
tout
puis
petit.
En plus pas musculeux, non. Et donc excellent au penalty, il en a raté qu'un, et d'ailleurs c'est Gaëtan Roche qui l'a arrêté. Et puis surtout en contre-attaque, sur les engagements rapides, et puis même dès que le gardien faisait un arrêt, il partait à 2000, et puis donc ça fait des buts faciles et des contre-attaques faciles. Donc c'était vraiment deux joueurs clés de cette équipe de Valence, et on l'a de suite vu.
Donc en fait, au milieu, fin de première mi-temps, l'équipe a décidé de prendre en strict ce fameux 97.
Ouais, un début de deuxième mi-temps. Ouais.
Ce qui a, même déjà en fin de première, ce qui avait déjà permis de qui mène moins le match à sa guise. Et puis finalement, deuxième mi-temps, alors Pascal a fait un choix très surprenant que j'avais jamais vu d'ailleurs. C'était quasiment de l'individuel sur tous les joueurs.
Ouais.
Donc en fait, je vais dire, c'était pas loin d'être le grand n'importe quoi visuellement vu d'en haut au niveau défensif, mais c'était quand même assez efficace. Donc il y avait que du 1 contre 1 sur le match. Donc bon, ça passe pas. Bon voilà. Et donc beaucoup de fautes. Du coup, ça engage beaucoup de fautes, mais ça engage aussi du spectacle, et c'était sympa.
C'est vrai que les arbitres ont pas permis que tu puisses continuer dans cette défense, puisque tu as pris deux fois deux minutes quasiment à 30 secondes d'intervalle. Donc il y a une période où tu as joué avec deux joueurs de champ et face à une équipe de Valence qui était, elle, au complet. Donc c'est-à-dire que tu as joué
période,
à 4 contre 6.
À 4 contre 6, voilà, on a 4, perdu 4 contre 6 de
comme joueur de champ. Ouais.
Que d'un but sur cette période. Donc les joueurs ont été assez héroïques.
Mais il y a eu un tournant de moi le tournant du match, je le vois un peu donc au cœur de cette deuxième mi-temps. Donc après cet épisode, une fois que tu es revenu à une défense plus classique, où donc Valence mène 22-20, et donc tu as cette balle dans la main donc pour revenir à un but. Et d'ailleurs, je pense que c'est sur une tire du capitaine Xavier Fournel qui malheureusement ne fait pas mouche. Et donc là, tu avais cette balle pour revenir à moins un. Et donc tu aurais pu justement connaître cette ambiance, cette fin de match avec un public un peu complètement déchaîné. Et donc malheureusement, tu n'es pas revenu à moins un. Et puis après, il y a eu de suite plus 3, plus 4 et même plus 5. Et donc c'est vrai qu'après, par contre, la fin de match, tu savais que la défaite était inéluctable.
Alors oui, Aurélien.
Ouais, non. Je pense, d'après ce que vous avez dit, je pense qu'effectivement, on peut pas être sévère contre cette équipe du MJC. Quand on voit Valence, ils sont troisième au classement. C'est pas le même championnat. C'est pas le même point du premier. Ouais, tout à fait. Donc, je pense que c'est le genre de match dont ils peuvent se servir pour l'apprentissage de ce niveau-là. Ça peut leur servir d'expérience pour la suite, et ça peut être des matchs aussi importants justement pour se sauver.
Mais il y a un aspect qu'on n'a pas abordé, c'est le nombre de blessés qui devient vraiment énorme du côté du MJC, en particulier deux gardiens, puisqu'on a Sébastien Frey, on a discuté avec lui, Laurent, de par son boulot, il va pas pouvoir se faire opérer avant février-mars, donc saison terminée, et même
début de saison prochaine aussi
terminé, puisqu'on sait que c'est les ligaments, donc il y en a au moins pour 6 mois après l'opération. Il y a le gardien qui l'a remplacé de fort belle manière.
Robin Novaïs.
Voilà, 17 ans, qui lui aussi est blessé. Donc, tu as été obligé sur ce match de rappeler Dragos Lazare. Donc, Gaëtan Roche a joué toute la première mi-temps et Dragos a joué toute la deuxième période. Et puis après, il y a des joueurs, et on en parlait aussi, tiens, Maxime Joubert, et c'est vrai que là, tu te rends compte, alors, moi, je me souviens avoir vu des matchs en tribune, tu t'es dit, Maxime Joubert, alors ouais, tu le vois pas, parce que il joue qu'en défense, donc il marque pas de but, il est pas sur la ligne de stats, mais là, tu te rends compte, depuis qu'il est pas là, toute l'importance de ce capitaine de défense, et j'ai trouvé qu'on est, et d'ailleurs, ça a été confirmé par tout le monde après la fin du match, on est quand même friable au centre du terrain. Et donc, ce qui fait que on se fait parfois trouer facilement, et donc ça donne des tirs faciles à l'équipe adverse. Et d'ailleurs, si tu regardes bien le classement de cette National 3, cette poule 7, quand tu regardes les défenses, on est actuellement l'avant-dernière défense. Il n'y a que Montluçon qui a perdu tous ses matchs, qui a encaissé plus de buts que le MGC. Donc ça veut bien dire quelque chose. Depuis le début, je le dis aussi, on prend trop de buts, encore 33 hier. Donc quand tu dépasses les 30 buts, 33, 35, ce genre de score. Voilà, et donc toute cette absence de Maxime Joubert pèse énormément dans le jeu du MGC.
D'autant plus que Pascal avait mis Olivier Cavalier
pour
reprendre un peu ce capitaine de défense.
Ouais.
Et Olivier Cavalier
s'est
blessé il y a 15 jours à l'épaule. Donc lui, c'est pareil, la saison est quasi terminée. Donc il faut encore chercher un remplaçant, un capitaine de défense. Donc ça commence à faire beaucoup. Je crois que finalement, il va falloir jouer l'attaque. Il n'y a que ça, mais on en rigole, mais c'est vrai, c'est très embêtant pour Pascal et Maxime. Mais
tu parlais des blessés, on est déjà à 4, les deux gardiens puis les deux qu'on a cités. Il faut rajouter Maxime André, qui s'est blessé en fin de saison dernière, et donc qui donne un coup de main en tant que coach adjoint à Pascal Daudet. Et puis il y avait Jérémy Roum qui s'est luxé le doigt dans la semaine à l'entraînement, donc qui a été obligé de faire l'impasse sur ce match de Valence. Et puis il y a eu Florian Coste qui n'a quasiment pas joué à la deuxième mi-temps, puisqu'il a pris un choc à l'épaule, et donc on l'a vu sur le banc de touche avec une poche de glace sur cette épaule. Donc là aussi, une puissance de feu aussi bien en défense qu'en attaque, qui n'a pas pu jouer cette deuxième période. Donc tu le vois, 4, 5, 6 joueurs.
Une équipe.
Ça commence à faire.
C'est fait une équipe qui est blessée.
Et ouais, c'est compliqué. Vivement la trêve pour pouvoir récupérer un peu
Pour aussi vivement 2017, alors.
Voilà, ouais, comme toi.
Surtout qu'il y a une énorme trêve. Là aussi, c'est compliqué à à comprendre. Et d'ailleurs, le président, parce qu'il y a le mondial, enfin, c'est le mondial qui est organisé en France, en janvier. Donc, c'est-à-dire que le MGC va jouer samedi à Bourgoin. Donc, c'est le dernier match de l'année, mais le début de. Ça reprend pas en janvier, ça reprend début février. Donc, c'est-à-dire que tu as deux mois, quasiment deux mois de trame. Bon, c'est bien pour les blessés, mais bon, c'est vrai que ça fait quand même une énorme coupure.
Bourgoin qui est quatrième ce week-end, déplacement à Bourgoin, gros match. Ça va être très compliqué, mais il faut y aller avec de la détermination. Et
d'ailleurs, la reprise en février, tous les joueurs en parlaient, c'est le match de. Bien sûr, à ne pas louper, puisque tu reçois Montluçon, qui est dernier. Donc, bien sûr, ça sera le match à ne pas rater.
Voilà, Montluçon qui a perdu, tout comme Vaux-en-Velin, qui est juste devant au classement. Mende qui est 11e avec 11 points. Et Bourgoin a gagné d'un petit but à Saint-Genis-Laval. On n'est qu'à 3 points du 8e, hein, quand même, hein, quoi qu'il en soit. Donc, tout est jouable. Handball Nord-Lozère, ce week-end, les seniors garçons recevaient Énergie. Tiens, c'est ce que t'écoutes comme radio.
Oui, c'est ça.
Saint-Mamé, ils ont gagné facilement 35-20 pendant que les seniors filles départementales recevaient.
Saint-Mamé, c'est ce que tu manges comme compote, toi.
C'est exactement ça. Et dans le choc des leaders, elles recevaient Saint-Mamé Énergie. Pareil, elles s'inclinent 24-16. Envolé, le MVL gagne à domicile à Luin 3-7-1, 20-25, 25-20, 25-20, 25-21. Tandis que ces satanés joueurs d'Avignon continuent à gagner. Hein. Patrick, c'est pas possible. Hein. Contre Saint-Pierre, cette fois-ci. Saint-Pierre qui est dernier. Hein,
dernier, ouais.
3-0 au classement, capitaine.
Alors, au classement, premier Avignon avec 25 points. Deuxième Mende, 23 points. Troisième Fréjus, 20 points. Quatrième Amiens, 13 points. Et cinquième Aluin, 13 points également.
Voilà, donc
ça, c'est pas grave pour Avignon qui gagne. Le principal, ce sera d'aller battre quand ils viendront jouer à Mende.
Et oui.
Oui, mais s'ils peuvent avoir une défaite en plus, c'est pas mal parce que t'es à deux points quand même. Il faudrait deux défaites, celle de Mende et une autre. Ou qu'ils perdent quelques points.
D'ailleurs, Avignon a deux gros déplacements puisqu'ils viennent à Mende, mais ils vont aussi à Fréjus. C'est vrai que ça peut redistribuer les cartes pour la deuxième phase.
Ouais, c'est ça. La réserve tient un montant régime et s'impose facilement contre l'ASBA Montpellier 3-7-0, il y a l'extérieur en plus, l'ASBA qui est au milieu du classement pendant que la réserve de Mende était dernier, et ils ont failli pas jouer ce match parce qu'ils jouaient à 21h et en fait ils se sont retrouvés ils doivent être une demi-heure avant au gymnase, et ils se sont retrouvés à la sortie du match Montpellier-Paris en passant par la Mosson. Donc ils ont mis à peu près une demi-heure pour faire 3 km et ils sont arrivés à 20h35 et l'ASBA a dit non mais à 5 minutes près vous pouvez jouer, il n'y a pas de souci. Et voilà, ils ont gagné, c'est très bien.
C'est fair play.
Ce que tu n'as pas signalé là pour l'équipe 1 du monde volleyball.
Parce que tu allais le faire.
Et voilà, j'allais le faire. C'est comme a dit Patrick la semaine dernière, le coach a encore fait tourner en mettant ses jeunes joueurs dans ce match quand même assez important puisqu'Aloin était bien classé. Donc bravo au coach et surtout bravo à ces petits jeunes qui feront certainement l'avenir du club.
Et ce qu'il faut préciser, c'est que Aluin était venu avec beaucoup d'ambition et était présent sur Mende dès le vendredi, puisqu'ils ont dormi sur Mende le vendredi soir. Donc ils n'avaient pas pris ce déplacement à la légère, ils avaient mis vraiment ce qu'il faut pour essayer de gagner. D'ailleurs, en principe, le MVL perd le second set. Et puis là, pour une fois, donc c'est le premier set qui est allé à l'équipe adverse. Donc ça met quand même une pression hein, quand tu perds le premier set à domicile. Il y a une belle réaction de l'équipe de Constant par la suite, avec les trois sets suivants. Et c'est d'ailleurs un peu le tarif maison, puisque pour l'instant, le MVL n'a jamais gagné 3-0. Et a fait quasiment que des 3-1, avec seulement une fois un 3-2, mais justement contre Aluin au match aller.
Voilà.
Mais qu'est-ce qu'elles ont fait, les filles de mal?
Elles ont perdu à Gignac 3-2, donc elles ramènent quand même un point. Elles sont 6e, bien installées au milieu du classement. Voilà, beau match. 25-8, 12-25, 25-18, 20-25, 15-10, même, si tu veux savoir exactement les. Les 7. Mmh. Allez, football, Marvejols s'impose à domicile face à Gignac également. Tiens, 3-0. But de Lowe, d'Embaye et de Fall à la 92e. Au classement, Marvejols est 6e avec un match de moins et à 3 points du 4e. Donc, ils peuvent revenir provisoirement 4e s'ils gagnent ce match en retard.
Le match en retard, c'est dès ce dimanche. Et quel match? Puisque c'est contre le leader pays d'Uzès, donc on se souvient de cette histoire d'Uzès hein, qui était jusqu'en national, puis après qui a mis la clé sous la porte, donc qui a été rétrogradé au niveau du district, et donc là qui reprend sa marche en avant, et donc qui est premier en DH1 et qui vise clairement la montée en DH. Donc c'est ce dimanche qui arrive à 15h à Morgeolles.
Ouais, qui a 30 points, pays du Zès. Hein,
qui a déjà fait le trou. Quoi.
Qui a déjà fait le trou, hein, qui a 4 points d'avance sur le second, mais avec un match de moins. Ils le feront réellement s'ils gagnent Morgeolles. C'est où ? C'est à Pinoton ?
À Pinoton, oui.
Ah, d'accord. Ben on parle de match en retard, justement. Match en retard pour le plus long déplacement de l'histoire de l'AFL. Et
720 km,
l'AFL qui va s'imposer à Dives-Cabourg, 2-1 dans ce match en retard. But de Fadil à la 5e et de Gourmand à la 24e contre un but de Dives-Cabourg à la 81e. Match tendu, avertissement pour l'AFL, Rebolosso, Brunel et Camara et exclusion de Contreras à la 64e. Pour Dives-Cabourg, deux avertissements et une exclusion à la 86e. Et à noter que Dives-Cabourg a obtenu un pénalty à la 93e minute suite à une main de Diallo dans la surface. Et un pénalty arrêté par Musi qui permet à l'AFL de revenir avec les 3 points, de dépasser Borgo et Aurillac au classement pour atteindre la 7e place. On disait depuis un moment, si on gagne ce match en retard, on remonte, si. Mais voilà, au moins c'est fait. Et c'est un très très bon résultat. Laurent ?
Oui, alors tu as dit un match tendu parce que tu as vu qu'il y avait des avertissements. Oui. Le match n'était pas du tout tendu. Par contre, c'était l'arbitre qui lui était un petit peu...
Il était tendu.
Tatillon.
Il n'avait pas compris que...
Le carton rouge de Contreras qui est amplement
mérité.
Carton
rouge direct. Hein.
J'ai vu la vidéo. Donc, il n'y a pas de doute. Un tacle à 70 mètres de nos buts par derrière. Enfin, il s'est loupé. Voilà, donc ça...
Il a glissé
peut-être. Un tacle violent.
Voilà, c'était une petite erreur de jeunesse. Je voulais souligner surtout... la belle victoire à l'extérieur, mais outre ça, cette victoire a permis de remercier aussi tous les dirigeants qui ont organisé ce déplacement, parce que bon, il a fallu prendre des jours de congé, je dis les dirigeants, mais aussi les joueurs qui ont pris des jours de congé, les coachs, tout ça. Donc ça a permis que le retour, les 10 heures de quart se fasse dans une meilleure ambiance. Donc bravo à eux, bravo aux joueurs, bravo aux coachs, et donc voilà, ça y est, on remonte un petit peu au classement, 7e, et ça redevient un peu plus conforme à l'idée qu'on se faisait de cette équipe. Donc bravo à tout le monde. Et surtout, alors tu l'as dit, je le redis, à Johan Musi, le gardien, qui depuis quelques semaines est en état de grâce, et donc ça s'est encore conforté, bravo à lui.
Patrick ?
Oui, c'est vrai que depuis le début de saison, voir l'AFL dans la deuxième partie de tableau, à mon avis, c'est quand même pas sa place. Donc là, la victoire permet de revenir justement dans cette première partie de tableau. Donc à une place plus conforme, je pense, à la qualité de cet effectif. Et donc, espérons que ce soit vraiment le déclic et que maintenant on parte sur une série. Et c'est vrai qu'il y a un déplacement aussi qui va être hyper important ce samedi à Aurillac. Et Aurillac qui est juste derrière Mende au classement. Et après, il y aura un dernier match à domicile avant la trêve. Donc, on le voit, deux matchs
Contre la réserve de Saint-Etienne.
Voilà, contre la réserve de Saint-Etienne.
Et qui est juste devant, derrière au classement.
Donc, c'est vrai que ces deux matchs peuvent permettre justement de revenir dans ces 5 premiers. À mon avis, voilà, l'AFL peut viser une place dans les 5 premiers à la fin de la saison. Donc, ces deux matchs vont permettre de savoir vraiment où on peut se situer. Et donc, superbe victoire avec un déplacement. Tu parles vendredi en début d'après-midi. Donc, c'est vrai que c'est pas courant pour le club de l'AFL. Et donc, les attaquants étaient alignés. C'était le retour des attaquants alignés tous en même temps. Donc, il y avait à la fois Diallo, Gourmand et Rebolosso en même temps au coup d'envoi sur la feuille de match. Et bon, on l'a
bien
vu.
Bien sûr, l'exclusion de Dimitri a tout faussé après, puisque
a modifié un peu le schéma, forcément.
A dû subir et donc. Le coach a dû sortir Fadil Gourmand. Voilà.
C'est Nabil Zanina qui a pris sa place.
Pas la place de Fadil. Qui est revenu renforcer le secteur défensif. Ouais. Et pour la petite anecdote, puisqu'on a parlé la semaine dernière, ils ne nous ont pas ramené de Calvados. Hein. Par contre, ça, c'est,
ah, ça, c'est mort,
n'y comptez pas. Pourtant, ça tue les microbes, là, ça irait bien pour Aurélien.
Ouais, mais... c'est vrai.
Voilà.
Dommage. Non, mais c'est vrai que la semaine dernière, après la défaite contre Bourgoin, on se disait que ce triptyque de match qui allait arriver allait être très important. Ils ont passé la première étape brillamment avec un long déplacement à l'extérieur. Donc, c'est vrai que s'ils arrivent à gagner les deux prochains ou au moins à ramener un petit match nul d'Aurillac, ça peut être bon.
Malade, ou quoi, les Cantalous, on va pas faire un match nul là-bas.
ça peut faire une belle fin d'année pour l'AFL. Hein.
Mais Aurillac en plus qui est le roi du match nul puisqu'ils en ont fait 7 depuis le début de la saison, donc c'est une équipe habituée à ce genre de résultat.
Allez, merci les gars. Au niveau de l'AFL, toujours grand chelem des équipes des jeunes en Coupe de la Ligue. Les U15 victorieux 4-1 à Saint-Clément. U17 et U19 qualifiés ce dimanche après-midi au Cos Doge. 2-1 pour les U17 face à Saint-Martin de Montpellier. Et match nul 1 partout contre l'AD pour les U19. Donc c'est bien, tout le monde a gagné ce week-end. Parfait. La réserve jouait pas, hein ?
Non, j'ai pas eu de... exact. Puisqu'il y a, voilà. Y a 13 équipes en PHA, donc c'était le week-end où la réserve était... Exact.
Voilà, c'est ce qui me semblait. Match nul à domicile pour l'ONL contre Domera, but de Makoumbi à la 59e. L'ONL qui stagne à la 12e place avec 15 points, mais qui n'est pas encore décroché, quoique, alors je vais dire ça. 12e, 15 points, 9 matchs. Qui a un match de plus. Donc t'es un petit peu décroché, mais voilà, sans plus. PHB, malgré un but de Papé, Badarou s'incline à Beaucaire 3-1. L'équipe de Badarou qui est actuellement 5e ex aequo avec 20 points, mais qui est à seulement 3 points de Beaucaire, qui est 2e. Après, le premier, je ne me rappelle plus, mais a beaucoup plus de points. Ça ouais. Paraît compliqué de revenir sur le premier.
Il y a un bilan équilibré, 4 victoires, 4 défaites. Hein. Beaucoup je crois que c'est 4 victoires à domicile et 4 défaites à l'extérieur.
Toujours en PHB, le Buisson s'impose au Gros du Roi à 2-1, qui est 8e de sa poule. Et enfin, en Régional 3, Langogne s'impose face à Sansac, 2-0. Voilà pour l'actualité lozérienne. On va parler un peu de ces 3-0 là après. Hein, on va faire une petite pause musicale parce que Laurent a un rendez-vous galant, donc il doit nous.
Un rendez-vous laisser. Professionnel surtout.
Professionnel galant. Voilà.
Ben, je vais vous laisser du coup parce que parler de Montpellier, Paris, c'est pas. Bon.
On va parler de la porte aussi du rugby. Oui. Hein, ouais. Y a quelques
d'ailleurs, un petit mot sur le rugby lozérien qui jouait pas ce week-end,
oui.
Mais qui se déplace à Bédarieux pour le premier match des phases de retour. Donc Bédarieux qu'ils avaient gagné à domicile lors de la première journée. Et dans 15 jours, ils font leur match en retard
à Villeneuve-les-Maguelones.
À Villeneuve-les-Maguelones, c'est ça, tout à c'est fait. Ça. Donc on en parlera plus longuement la semaine prochaine.
Voilà, y a deux déplacements pour le RCML. Là aussi, qui vont dire beaucoup de choses sur la suite de la saison, en particulier ces play-offs pour le titre de champion honneur.
Et ouais, quand on connaît la difficulté du RCML à gagner à l'extérieur, ça va être très important aussi cette fin d'année pour eux. Surtout que là, ils sont en milieu de classement avec ce match en retard. Donc ça pourrait aussi être bon. S'ils avaient la bonne idée au moins d'en gagner un, ça pourrait être sympa.
Et c'est vrai que nos équipes vont à l'extérieur le week-end prochain, puisque à la fois le hand, le foot et le rugby se déplacent.
Il n'y a que le volley.
Et le volley, il y a un break d'une semaine. Il n'y a pas de journée de championnat le week-end prochain.
Ok, mais avant de partir, on va faire les pronostics quand même, parce que si tu n'es pas là en seconde partie d'émission. Alors on a plusieurs choix, parce qu'il y a la Ligue des Champions. Sachant que Leverkusen contre Monaco, ouais. C'est pas super intéressant parce qu'ils sont déjà qualifiés, ils sont déjà premiers, donc ils vont aller avec une équipe bis. Lyon-Séville, très bon match, on va parier dessus. PSG-Ludogorets, ils sont quand même obligés de gagner Paris, donc à savoir combien et est-ce qu'ils vont le faire. Et après, il y a un Paris-Saint-Germain-Nice aussi. Dimanche prochain. Donc on fait quoi? On fait Lyon-Séville sûr. On fait Ludogorets ou on fait Nice?
On finisse.
Allez, c'est parti. Et on va laisser une chance à Laurent aussi, qui est spécialiste des Miss France, en lui laissant nous dire quelle Miss va être Miss France. Et si il a juste, on lui donne 2 points d'emblée.
Ah oui, ça oui. Ouais. Il y a tellement de possibilités.
Il parie qu'il a passé le week-end à étudier les photos.
Je peux vous dire, Miss France, il se pourrait que ça soit Miss Auvergne.
Voilà. Miss Auvergne.
Voilà, Miss Auvergne, elle a une carte à jouer. Voilà, je dirais.
Ok.
C'est noté. Ah,
c'est noté.
C'est noté. Hein,
voilà. Impressionnant.
Je vais faire un beau montage, je pense, la semaine prochaine.
Ouais. Il va alors... passer son samedi soir à envoyer des textos, à voter pour Miss Auvergne samedi prochain.
Et à perdre 2000 euros pour gagner 2 points. Lyon-Séville. Le problème, c'est qu'on ne sait pas s'ils ont un goal aussi, Lyon. Hein. Mais bon, on verra ça. Ouais. Patrick, Lyon-Séville.
Il y a deux Joël Batz qui joue, je crois, a priori.
Peut-être qu'il peut rentrer.
2-0 pour Lyon.
Ah, il se qualifie.
Ouais.
Ouais, ça c'est le cœur qui parle. C'est pas bon quand c'est le cœur qui parle. C'est à Paris ou c'est à Nice, Aurélien ?
C'est à Paris.
C'est à Paris ?
C'est à Paris.
Alors, Paris-Nice ?
Paris-Nice, 2-2.
C'est pas du vélo, hein ?
2-2, c'est ça. 2-2. Aurélien, Lyon-Séville.
Lyon-Séville, j'ai vu que Séville avait perdu contre, ce week-end contre Grenade, le dernier de Liga. Alors, je sais pas s'ils avaient mis la grosse équipe ou pas.
Lyon a perdu à Metz aussi.
Ouais.
Non, mais arrête, le match est arrêté.
Moi, je vais dire 1-0 pour Lyon. Donc la victoire, mais qui laisse un goût amer, tu vois, le truc un peu ouais, triste. Hein.
Un peu frustrant.
Ouais, un peu frustrant, ouais. Et après, PG Nice, moi je vais dire Nice 2-1.
Nice 2-1 à Paris.
Ouais. Ouais. Je sens que Balotelli va faire son retour en plus.
Tu sais ce qu'il m'envoie comme message, il me dit tiens, Paris va mettre 4-0 à Montpellier, comme en 6, c'est triste. Et là, il retourne sa veste quand il voit qu'il se prend une raclée, il se dit oh bah Nice va gagner si Montpellier gagne. Pas beau ça, Aurélien.
Non, c'était pas ça mon message, c'était le correcteur automatique qui a fait une mauvaise interprétation.
Qui a fait une erreur, d'accord,
message,
tu me rassures. Donne-moi la miss aussi, on les a pas vus, mais dis au pif.
Parce que
on peut gagner des points, pourquoi il y a que Laurent qui en gagne.
Ah, c'est vrai ça.
Allez, vas-y.
Allez, moi je vais dire Miss Paca.
Miss Paca.
Allez. Je ne sais même pas si elle y est, d'ailleurs.
Je suis allié.
On m'a joué local, Miss Languedoc.
Ok, d'accord. Laurent, attends, tu vas le dire à la fin, calme-toi. Moi, je vais dire Miss Île-de-France. Elle y est, Miss Île-de-France aussi.
Oui.
Très bien. Et je vais dire Lyon-Séville, je les vois bien un partout. Gagner 1-0, se découvrir et prendre un but. Et Paris-Nice, Paris va être fatigué en plus. Un petit 2-1 pour Paris. Quand même, parce que c'est pas la classe. Nice, c'est pas Montpellier, quand même. Laurent, fais nous rêver.
Donc, Lyon, c'est contre qui ? Séville. Donc, 3-1 pour Lyon.
Donc, il se qualifie pas ?
Si. Début des quarts, il se qualifie.
Début des quarts, il se qualifie.
Lyon, 3-1. Et,
tête PSG... de Valbuena ?
Non, PSG-Nice, 3-0 pour le PSG.
Ok, très bien. Allez, bah, sur ces belles paroles, on va
se voir la semaine prochaine, les copains.
Ouais, on se voit la semaine prochaine.
Allez, à la semaine prochaine.
Salut tout le monde.
Mais ne quittez pas, on revient. Hein.
Eh, non, on est là. Hein.
Lonely road all on your own. So it's
Allez, on est reparti dans l'instant sport avec plusieurs sujets. On va commencer par quoi ? Tiens, on va commencer par la Ligue 1, non ? Hein ? La Ligue 1, c'est intéressant, il s'est passé des choses. Parce qu'il y a aussi du rugby, il y a aussi du handball. Donc alors, je retrouve mes notes. Où c'est que j'en étais ? Non, il me manque une feuille. Bah, tu l'as. Tiens, super, c'est ça que je veux. Mais pourquoi tu m'as pris ma feuille ? Hein ? Fais des blagues.
Pendant que j'avais le dos tourné. Ouais.
Pendant que j'avais le dos tourné. Allez, la Ligue 1 avec des résultats étonnants. Monaco qui en met 5 à Bastia, enfin étonnant sans plus quand même. Montpellier qui en met 3 à Paris, Marseille qui en met 3 à Nancy, Nice qui en met 3 à Toulouse, Rennes qui bat Saint-Etienne 2-0, Guingamp qui précipite la chute de René Girard qui gagne 2-0 contre Nantes, Lille qui va gagner à l'extérieur à Bordeaux et Angers-Lorient 2 partout sans compter le camp Dijon 3 partout. Étonnant cette semaine, Patrick.
Tu parlais de René Girard, mais il avait été limogé la semaine
d'avant, oui, donc, avant le match.
C'était son... l'entraîneur de l'équipe de CFA qui était sur le banc contre Guingamp.
Donc
voilà, René Girard, ça a été, on pouvait s'en douter hein, quand on voit, quand on connaît,
relations tendues,
voilà, quand on connaît cette équipe, ce club de Nantes en particulier son président, bon, qui tire, qui flingue tout azimut, et quand on connaît le caractère de Girard, voilà, le scénario était quasiment écrit à l'avance, donc ça a même pas duré 6 mois si on compte la préparation. Un terrible échec et donc c'est vrai un peu ce club de Nantes quand même qui représente quelque chose dans le football français, qui a eu des générations dorées, qui a produit un jeu fabuleux, et donc on voit ce club qui est en train de péricliter, et bon, c'est pas dit qu'ils arrivent à se sauver d'ici la fin de la saison, parce qu'on sent vraiment un traumatisme. Alors en plus le public s'en mêle, ça fait un peu comme Marseille à l'époque, la plus sombre. Donc ça sent mauvais pour Nantes.
Ouais, c'est vrai qu'en plus, c'est une vraie terre de football, Nantes.
Eh oui.
Je crois qu'ils ont eu une des meilleures affluences au niveau spectateur du championnat de Ligue 1.
C'est vrai.
Donc malgré les mauvais résultats de leur équipe, à chaque fois, le stade de la Beaujoire fait le plein ou quasiment. Donc c'est vrai que c'est un peu triste pour ce club là. On se rappelle il y a pas si longtemps que ça, il y a une dizaine ou douzaine d'années, ils étaient champions de France. Hein. Tu vas peut-être me dire, Patrick,
peut-être un peu plus, mais au début des années 2000.
Ouais.
Donc voilà, il y a une quinzaine d'années, on se souvient, hein, Patrice Loco, il y avait Carambeu, etc. Il y avait Nicolas Wedek qui jouait avant-centre. Il y avait vraiment des joueurs. Alors après, si tu remontes encore plus avant, Loïc Amis, Maxime Bossis, bon, il y a eu de sacrés joueurs dans ce club de Nantes. Et donc là, on se rend compte que maintenant, c'est la soupe à la grimace.
C'est vrai, comme tu disais, j'ai l'impression que depuis que ce président Kittel a repris ouais. le club, je crois que Girard, c'était le 10e entraîneur en 10
c'est
ans.
Vrai. C'est vrai, tout à fait.
C'est vrai que tu peux pas bâtir une équipe en changeant d'entraîneur tous les ans et en ne laissant pas sa chance aux entraîneurs. Donc
même en changeant de philosophie, hein, parce que Kita, il a mis moins d'argent dans la formation, etc. Tout ce qui faisait les belles heures.
Ouais, tout à fait. Ouais.
De l'époque nantaise. Après, voilà, Nantes, c'est qu'à 3 points de Dijon, donc
oui,
ça va.
C'est très serré dans le bas de tableau.
C'est
15e. Et si tu veux parler après du haut de tableau, c'est vrai que je fais partie de ceux qui un peu un petit doute au niveau de Nice, mais je dois reconnaître que Nice est impressionnant depuis le début de la saison, puisque ils ont 39 points, et donc c'est un des scores les plus hauts de ces dernières années pour une équipe à cette époque de l'année. Je crois qu'il y a eu Lyon de la grande époque, et puis le Paris Saint-Germain qui dominait tout il y a un an ou deux, qui ont eu plus de points à ce moment-là. Moi je les voyais plutôt craquer. En plus là ils ont quand même des joueurs majeurs qui sont pas là, mais ils produisent un jeu, c'est vrai, assez impressionnant. Alors par contre là, au contraire de Nantes, y a pas de public. Il y a un cop vraiment fidèle qui met l'ambiance derrière le but, mais sinon après le stade est totalement vide. Il y avait même pas 20 000 personnes contre Toulouse, alors que ton équipe est non seulement en tête, mais en plus produit un jeu magistral. Donc il y a tout pour un stade neuf, donc qui fait 35 000. Bon, il y a tout pour qu'il y ait au moins 30 000, que ce soit vraiment un spectacle hallucinant. Et puis il y avait même pas 20 000, je crois qu'il y avait entre 16 et 18 000. Donc c'est quand même une déception, parce que Nice, c'est la quatrième ou cinquième ville en France, donc il y a un potentiel population indéniable.
Ouais, absolument. Nice, donc. Par contre, je ne sais pas ce club du côté des joueurs africains, parce qu'on sait qu'il y a la CAN qui va intervenir cette année et qui peut poser des problèmes aux équipes qui n'ont pas plus de bancs que ça.
Il y en a un qui va partir, c'est Seri, qui est très très fort. Puis il a joué, il devait jouer. Non, il n'a pas joué contre nous, mais il devait jouer à la Côte d'Ivoire, mais il était blessé, donc il n'avait pas joué le match amical contre la France. Donc c'est vrai que ça leur fait
Belanda
un bon joueur.
Il devrait être rappelé avec voilà, les bonnes prestations.
Belanda aussi. Sinon après ils ont beaucoup de Brésiliens, donc là ils sont pas concernés. Et puis après Balotelli il ira pas au championnat à Coupe d'Afrique des Nations.
Non.
Non mais c'est vrai que là vous parlez de deux débuteurs de ce week-end quand même. Hein.
Ouais, c'est
donc
vrai.
C'est vrai que non, au niveau offensif ça va leur faire une moins value qui peut-être va jouer dans la suite de la saison. Ouais.
C'est voilà. Vrai. Et Monaco qui cartonne toujours 5-0 cette fois-ci, ça commence à en faire
des jeunes qui vraiment en attaque sont omniprésents, en particulier ce Mbappé là qu'on a vu et que. Avec l'équipe de France des U18 ou des U19. Donc, superbe performance de cette équipe Monaco, Falcao, donc, qui est cité dans cette fameuse affaire d'évasion fiscale, mais qui n'a pas été perturbé et qui a fait son meilleur match depuis le début de la saison.
Ah, j'avais pas prévu d'en parler, mais tiens, vu que tu en parles, on va en dire un mot.
On peut le dire, mais et d'ailleurs, Jardim, je suis pas un fanat de Jardim, mais à la fin du match, il a dit quelque chose qui est une vérité absolue. Il a dit, oui, Falcao a cette affaire sur le dos, mais comme quasiment tous les joueurs de football qui, à un certain niveau, voilà, ceux qui ont les salaires les plus élevés, tu peux les voir, ils sont quasiment tous, à un moment ou à un autre, rattrapés par le fisc. On a vu Messi a été condamné par la justice espagnole.
Neymar
va l'être dans pas longtemps. Bon, maintenant, c'est Cristiano Ronaldo, c'est Falcao, et il y en aura bien d'autres. Quand tu vois les sommes folles, il y a
150 millions, il cache Ronaldo.
Oui,
tu m'expliques pourquoi tu as besoin de cacher 150
millions. Mourinho aujourd'hui, si tu regardes la presse, il a mis 12 millions d'euros de côté aussi pour pas que le fisc s'en occupe. Bon, il y a tout un tas de gars, bien sûr, qui gravitent autour de ces joueurs et eux, ils ont toutes les astuces, ils ont toutes les combines, ils créent tout un tas de sociétés et ça part. Tu l'as vu, c'est les îles Vierges britanniques. Il y a un chiffre hallucinant, il y a 15 000 sociétés. Et sociétés qui créent zéro emploi, c'est juste des trucs qui sont créés parce qu'il n'y a pas d'impôt sur les sociétés dans cette île-là. Et donc, voilà, c'est comme ça c'est regrettable parce qu'on vit une époque difficile. C'est vrai que les gens qui sont dans les tribunes, c'est pas forcément des gens qui roulent sur l'or, ils font des sacrifices pour acheter les billets. Il s'enflamme, on vibre, et puis après, la moindre des choses, c'est que celui qui gagne beaucoup d'argent, au moins, il participe quand même
à l'effort national.
C'est le minimum qu'on attend, et puis on se rend compte que il joue pas le jeu, donc c'est vrai que c'est regrettable, et ça met encore une fois de plus le football un peu au ban de la société.
C'est vrai qu'il y a trois noms qui sont sortis dans cette affaire, c'est Cristiano Ronaldo, José Mourinho et Falcao pour l'instant, parce qu'ils nous annoncent encore des surprises. Et le dénominateur commun de ces trois footballeurs-là, c'est quand même leur agent,
voilà.
Qui est Mendes. Alors Siri, tu parlais des personnes qui gravitaient autour des joueurs, je pense moi que ça vient plus de là, parce que je pense pas que le joueur de football professionnel qui se concentre lui sur le terrain, sur sa carrière, ait ni l'envie, ni les capacités intellectuelles et financières et fiscales, etc. pour gérer ce genre de choses, donc je me demande même s'ils étaient...
Les capacités financières il les a, mais actuel j'en suis un peu moins sûr, ouais.
Non mais c'est vrai que quand on voit par exemple...
Mais je suis même pas sûr qu'ils étaient forcément au courant, ou peut-être au courant, mais c'est des choses qu'ils regardent vraiment de très loin. Et
moi, le coup de l'ignorance, j'y crois pas trop. Il y a un moment donné, tu obligatoirement un peu au courant de ce qui se fait. Après, que tu sois pas, bien sûr, dans le montage de la fraude, bien évidemment. Bon, après, quand tu vois Pogba n'est pas cité encore, bien évidemment, mais quand tu vois la commission de son agent, puisque la Juventus a révélé noir sur blanc qui avait touché qui, il y a plus de 20 millions d'euros. Il y a un agent qui touche 20 millions d'euros de commission parce que tu transfères Pogba de la Juventus à Manchester United. Bon, ça laisse rêveur et c'est vrai que ça d'un côté, ça fait quand même mal au cœur, quoi. Qu'il soit rémunéré, ok, mais à hauteur de 20 millions d'euros, ça paraît quand même totalement hallucinant.
Voilà, si en plus c'est pour les cacher, pour que le fisc ne les attrape pas. Moi, je pense qu'il faudrait les juger sévèrement sur des coups comme ça.
Non, mais je suis d'accord.
Euro féminin, juste un petit mot. Ça y est, ça a commencé pour la France en handball. Première journée, elle bat la Pologne 31-22. Donc ça part bien, c'est une bonne chose.
Ouais, j'ai regardé le match hier soir. Et
ah, tu l'as vu.
Il y a plusieurs joueuses qui ont intégré l'effectif et qu'on n'a pas l'habitude de voir, même s'il y a toujours des anciennes comme Alison Pinault, Alexandra Lacrabert, la gardienne, Amandine Lénaud. Mais bon, un match vraiment dominé de la tête et des épaules, énorme match des Françaises. Mais là maintenant, le plus dur va arriver, puisque mardi c'est l'Allemagne et jeudi c'est les Pays-Bas. Deux gros matchs en perspective.
Après de super Jeux Olympiques,
oui,
c'est bien
de poursuivre.
Ouais. C'est ça. Faudrait qu'on se fasse une émission sur la... Je reviens au football, hein, sur la tactique un peu, sur les différents systèmes mis en place. J'ai vu que Guardiola a dit cette semaine que Conte était peut-être le meilleur entraîneur du monde à l'heure actuelle avec son 3-4-3, ouais, qui a marché d'ailleurs contre Manchester City, vu qu'ils sont allés gagner 3-1 à l'extérieur, il me semble. Hein.
3-1, ouais.
À City, ouais.
Après, à City.
Alors qu'ils étaient menés à 0.
Donc c'est bien, il faudra faire une émission un peu tactique sur ça, réfléchir. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce système, Patrick?
Alors c'est vrai qu'il a existé il y a 15-20 ans, il y avait beaucoup d'équipes qui jouaient à trois défenseurs, puisque c'était un peu le catenaccio italien qui avait lancé ça, et les équipes bétonnées.
Trois qui donc, sont cinq en fait.
Voilà, et donc trois, quand on dit trois, c'est trois défenseurs dans l'axe, et après il y a deux joueurs de couloir, alors qui sont à la fois arrière, milieu et ailier, donc à la fois du côté droit et du côté gauche. Et donc c'est pour ça qu'on peut dire 5 ou 3, ça dépend comment on voit la chose. Et donc ce système avait été abandonné après pendant plusieurs années, et on était plutôt à 4 avec deux défenseurs dans l'axe. Et puis là maintenant ça revient au goût du jour, puisqu'on a vu que Garcia l'avait utilisé dans ce fameux match à Paris, c'était son premier match, il est arrivé deux jours auparavant. Et donc là Conte est en train vraiment de le remettre à fond au goût du jour. Et quand même dans un système où ça laisse quand même la place à l'offensive, même s'il assure ses arrières défensivement, il y a quand même un potentiel offensif impressionnant dans cette équipe de Chelsea, avec notre Français Kanté qui est vraiment rayonnant au milieu de terrain, qui est bon, là aussi un joueur de top classe et qui va, à mon avis, devenir parmi les 10 meilleurs joueurs au monde dans les années à venir.
Carrément.
Ah oui, je pense, franchement, hein, parce que lui, il a vraiment l'humilité, il a la tête sur les épaules, il sait d'où il vient. Je me souviens avoir vu un reportage sur lui, à l'époque il jouait à Boulogne-sur-Mer, en national, il allait à l'entraînement à pied. Il y avait la tempête, et c'était quasiment de la neige fondue, et donc comme il n'avait pas de voiture et aucun moyen de transport, il allait à pied, et donc c'était parfois des supporters qui le reconnaissaient, ou ses coéquipiers qui passaient devant, mais qui s'arrêtaient pour le prendre. Et donc ça, tout ça, il a pas oublié, et donc bon, il faut voir les matchs qu'il fait à Chelsea, et quand tu entends Conte parler de lui, il dit que c'est vraiment un homme de base.
Ouais. Ouais, c'est vrai que cette équipe de Chelsea qui a eu un peu de mal au début du championnat avec ce nouvel entraîneur là, mais là maintenant j'ai l'impression qu'ils ont vraiment intégré la philosophie de l'entraîneur italien et ce système de jeu là, et là ils sont assez impressionnants. Hein.
Allez, on va terminer cet instant sport en parlant de rugby avec Bernard Laporte qui a succédé à Pierre Camus à la tête de la Fédération française. Et dans son dernier discours, il lance déjà ses grands projets pour le rugby national, dont on va revenir sur le principal, l'instauration de contrats fédéraux pour les internationaux. Donc, explication, afin que les meilleurs joueurs français soient à disposition 6 mois par an de l'équipe nationale, ce qui se fait notamment dans certaines nations de l'hémisphère sud, Laporte veut rémunérer ses joueurs. Bien sûr, parce que les clubs ne vont pas accepter de perdre leurs joueurs 6 mois alors qu'il les rémunère. Et donc, pour trouver ces 5 millions d'euros, il a évalué à 5 millions d'euros. Il pensait mettre un sponsor sur le maillot national. Donc, ça peut choquer ou pas, mais ça, ce n'est pas ce qui m'intéresse aujourd'hui. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ce système de contrats fédéraux pour les internationaux. Et j'aimerais avoir votre avis, messieurs, sur cette disposition que Laporte veut mettre en place. Sachant qu'il a déjà rappelé qu'il n'y avait qu'un seul patron, c'était le président de la fédération, en somme, pour dire au club que vous soyez d'accord ou pas d'accord, si ça se fait, ça se fait, et vous n'aurez pas votre mot à dire. Patrick ?
Je pense que ce n'est pas une si mauvaise idée que ça. Alors le problème, c'est qu'en France, c'est totalement inconnu. Hein. Ça ne s'est jamais fait. À l'heure actuelle, il y a un seul joueur qui est un contrat comme ça, c'est le fameux ailier fidjien Vakatawa, qui d'ailleurs a fait une tournée, les trois matchs en novembre, excellent, et donc qui était aux Jeux Olympiques avec l'équipe de rugby à 7. Donc c'est le seul joueur pour le moment qui a un contrat avec la fédération, mais lui à l'année, puisqu'il ne joue pas en club. Alors c'est vrai que si Laporte va jusqu'au bout de son raisonnement, il va se heurter, à mon avis, à certains clubs qui vont bien sûr bondir face à cette proposition. Mais je pense quand même que c'est une bonne chose parce que la France a pris du retard dans ce rugby d'équipe nationale. Et donc on se rend compte que ben, si tu n'as pas vraiment des plages de repos, de préparation vraiment conséquentes, à mon avis, tu ne peux plus jouer un rôle dans ce rugby d'équipe nationale mondiale. Donc comme quasiment tous tes adversaires les plus forts sont sur ce système-là, même si les Anglais ne le sont pas, ils s'y rapprochent quand même grandement, puisque Aurélien, je pense que tu seras de mon avis, un international anglais, son club, c'est vraiment, ça vient vraiment en second par rapport à l'équipe nationale, même si il fait quelques matchs, bien évidemment. Donc je pense que Laporte a conscience que s'il ne met pas en place ce truc, on sera quand même toujours en retrait par rapport aux trois nations du Sud, et même à l'Argentine, qui elle aussi a carrément adopté ce système-là.
Oui, c'est vrai que dans l'esprit, c'est une bonne idée. Après, est-ce que ça va pouvoir effectivement être réalisable concrètement dans la vie de tous les jours pour les clubs de rugby, etc. Ça, c'est une autre paire de manches. Tu prenais l'exemple des nations de l'hémisphère sud. Il faut savoir que dans l'hémisphère sud, le championnat de l'hémisphère sud est très resserré dans le temps.
Il n'y a pas de descente en plus.
Voilà. Il est très resserré dans le temps. Donc, au niveau du calendrier, il ne joue pas pendant 9 mois comme nous, on peut le faire sur notre top 14. Donc, le championnat est très resserré sur 5 mois. Et ensuite, les joueurs sont à la disposition de l'équipe nationale. Donc, nous, c'est pas le cas. Il y a toujours ce problème de calendrier et ce conflit qui peut y avoir avec les clubs. Donc, est-ce que ça va être réalisable ? Dans l'esprit, l'idée est bonne, effectivement, pour renforcer l'équipe de France. Après, est-ce que c'est pas juste un effet d'annonce, un peu de démagogie pour être élu? On sait que Bernard Laporte, c'est un personnage qui a une grande gueule, effectivement.
Là, il a été élu.
Très bon, oui, bien sûr. Avec une énorme majorité. C'est vrai qu'on parlait des sondages au niveau politique, mais on peut parler aussi des sondages au niveau du rugby et du sport en général. Bon, même si Laporte était quand même bien placé, personne ne pensait qu'il obtiendrait une telle majorité. Il est élu avec 84% des voix. Donc c'est un raz-de-marée vis-à-vis d'un président sortant. Et quand on sait la tradition du rugby, où on respecte le sortant, où il y a quand même une prime au sortant, on se rend compte quand même qu'au niveau des clubs, il y avait aussi un ras-le-bol dans la façon dont la fédération était gérée, en particulier au niveau des clubs amateurs. Et bon, tu parlais de cette histoire d'équipe de France, mais Laporte a surtout été élu parce qu'il a dit qu'il allait énormément aider les clubs amateurs qui sont confrontés. On peut en parler au SRML, mais ça arrive bien sûr dans toutes les clubs de France, à ces fameux déplacements. Mais là, tu te déplaces à 22, puis c'est dirigeant. Et donc, moi, je lisais certains témoignages de clubs perdus un peu partout en France, où ils disaient qu'ils passent leur année à organiser des événements. Alors, les événements, c'est quoi? C'est un loto, c'est une soirée dansante, c'est vendre des calendriers, etc. Ou alors à aller chercher les sponsors pour justement boucler le budget, parce que les côtés déplacements, ça coûte énormément d'argent. Et donc Laporte a fait une promesse en disant qu'il y a tout un tas d'argent qui est en principe allé au monde professionnel, qui serait reversé justement à ce monde amateur pour justement les aider à boucler le budget, en particulier ce budget déplacement.
Il a fait marche arrière déjà sur le cas Noves, hein, parce que il voulait l'éjecter, c'était une de ses propositions, et quand il a vu les soutiens nombreux et variés sur Noves, il vient d'annoncer qu'il comptait bien sûr le garder.
Ouais, bah bien sûr, après ils vont se rencontrer. Peut-être que Noves, on connaît son caractère aussi, hein, peut-être qu'il dira à Laporte, moi c'est Camus qui m'a nommé sélectionneur, bon, moi je suis fidèle, donc je m'en vais. Il en est tout à fait capable. Nouvelle, c'en est capable. Mais bon.
C'est vrai qu'on sait que les deux hommes ne s'apprécient pas forcément voilà, aussi.
Ils ne s'apprécient pas des masses. Donc on verra. Après, au niveau des contrats fédéraux, ce qu'on peut rajouter, c'est que quand tu interroges un international français à l'heure actuelle, tu n'en as aucun qui te dit mais moi je veux avoir un contrat fédéral. Donc tu sens, alors ils disent bon on verra tout ça, mais j'en ai pas entendu un seul en disant mais oui on espère avoir un contrat fédéral et jouer que pour la fédération ou donc on se rend compte que même du côté des joueurs il y a quand même un frein à ce niveau-là, donc bon on verra, alors que Laporte avait sur sa liste d'anciens joueurs glorieux, en particulier Pascal Papé, qui lui milite sur le fait qu'il y ait un contrat fédéral, et il dit que si de son époque ça avait existé, il aurait signé lui sans aucun problème un contrat fédéral.
Eh oui, mais c'est peut-être le calendrier des professionnels, top 14, etc., qu'il faudrait revoir, hein, plutôt que travailler dans l'autre sens.
Ouais, tout à fait. Mais justement, Bernard Laporte aussi réfléchissait à, au lieu de faire un top 14, faire un top 12, justement, pour alléger un peu ce calendrier, pour pouvoir aussi mettre deux ou trois matchs internationaux de plus pour l'équipe de France, pour qu'ils puissent s'entraîner et se jauger face à des grosses équipes. Donc, est-ce que aussi, voilà, faut pas passer par une refonte du calendrier, enfin, je sais pas, moi j'ai pas la solution, mais c'est une question de toute façon qui va se poser indéniablement.
Mais ce qu'on peut dire, c'est que ben, le rugby a fait le choix de sa révolution, et c'est vrai que ça va bouger, hein, au niveau du rugby.
De toute façon, il fallait, oui.
Il y a tout un tas de choses qui vont vraiment. On connaît Laporte, hein. Alors après, il a fait 44 mesures, hein. Il a annoncé 44 mesures, ça va être compliqué de toutes les appliquer, mais. Il va en appliquer au moins un tiers, et je peux vous dire que ça va déménager, en particulier au niveau du Grand Stade. Il y a déjà le maire de Ris-Orangis et tous les élus de l'Essonne qui disent on va l'appeler, on va le réunir, il faut qu'il revienne sur sa décision, parce que là aussi, au niveau des emplois et au niveau de ce département...
Voilà, il a annoncé qu'il voulait plus de Grand Stade.
Oui, plus de Grand Stade, parce que pour lui, ça mettrait la fédération en faillite. Et donc on se rend compte que déjà les élus politiques ben, du coin là, de la région parisienne veulent le rencontrer immédiatement pour le faire changer d'avis.
Et après pour le sponsor sur le maillot de l'équipe de France, il paraît que Madrange s'est déjà positionné puisqu'ils ont ils ont déjà eu des contacts avec Bernard Laporte à l'époque. Donc
Chabal. Chabal, les steaks Chabal, ils vont mettre. Ouais, ça aussi, ça peut être assez drôle hein, d'avoir.
Ouais, il y a une de choquant. Moi, c'est vrai que là aussi, on rompt avec la tradition. Donc, c'est vrai que les rugbymen purs et durs depuis toujours, bon, ils vont crier, mais ça va dans le sens de l'histoire. Tu le vois, les All Blacks, ils en ont un, les Irlandais, ils en ont, les Anglais aussi, les Sud-Africains aussi, les Australiens aussi. Bon, on est quasiment la seule équipe à ne pas avoir de sponsor sur le maillot. Ça va dans le sens de l'histoire.
Oui, absolument, Patrick. Ok, les gars, ben merci beaucoup pour cet instant sport. On se retrouve lundi prochain.
Même avec heure, plaisir.
Même antenne pour de nouveaux résultats sportifs.
Avec plaisir.
Ciao, les gars.
Bye bye. Au revoir.
Leslie John au couloir en numéro 2, allez Leslie, c'est parti pour Leslie John.
La performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Victor Marquet, je ne dis rien.
La c'est France le moment, entière. C'est l'instant, Alex, la France entière.
Parker inside, pretty play from Tony Parker.
Du tas de diapéro.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde.